J'aimerais lire une parole du Seigneur Jésus, Matthieu 10, verset 39. Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est une phrase un peu curieuse, comme le Seigneur Jésus en avait l'habitude, pour nous faire réfléchir. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Normalement, on a un instinct de conservation qui est inné, que Dieu nous a donné d'ailleurs, qui fait que lorsque on s'approche du vide, normalement, on s'éloigne, qu'on garde sa vie, on se protège. Et là, il dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra la retrouvera. Mais attention, il dit, celui qui la perdra à cause de moi. Et il parlait à ceux qui le suivaient. Et il voulait dire, si vous voulez garder votre vie pour vous, si vous voulez vivre pour vous-même, vous allez perdre votre vie. Mais si vous donnez votre vie pour me suivre, vous allez retrouver votre vie. Vous allez avoir une vie abondante. Et le sujet ce matin, c'est quel est le sens à notre vie? Si on n'a pas de but, si on n'a pas de sens, on va nulle part. Pourquoi est-ce que je me lève le matin? Il y a plusieurs raisons possibles. Hein. Il y en a, ils vont dire, ben, parce qu'il faut, sinon je suis viré à mon travail. Les autres vont dire, ben, j'ai mes enfants, il faut que je sois là pour m'occuper d'eux, ils vont partir à l'école, je ne sais pas. Et d'autres disent, ben, voilà, parce que je suis réveillé, je me lève. Il y en a qui disent, j'aimerais bien rester au lit, j'ai pas de sens à ma vie. Pourquoi est-ce que je me lève? Qu'est-ce qui me fait vivre? Quel est le sens, la direction à ma vie? C'est terrible de se lever le matin sans savoir pourquoi on vit, d'être juste dans le métro boulot dodo hein, pour les Parisiens, c'est-à-dire ben, c'est la routine, il faut vivre, je suis sur terre, voilà. C'est triste parce que la vraie vie, elle existe. Mais c'est vrai qu'il faut perdre une vie pour en gagner une autre avec Jésus-Christ. Il y a ceux qui vivent pour eux-mêmes. Et moi, j'étais de ce cas-là, et on est nombreux dans ce cas. Et j'aimerais qu'on regarde ce que dit la parole de Dieu. Philippiens, chapitre 3, versets 18 et 19, où il y a là, Dieu pointe le doigt sur une catégorie de personnes. Philippiens 3, 18, il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, l'enfer, les temps ardents de feu, la séparation éternelle avec Dieu. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça, c'est terrible, cette phrase, hein, parce qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il y a des millions de gens qui vivent comme ça. Ils travaillent quand ils ont un travail. Ils vont faire les courses. Puis on survit comme ça. Puis un jour, on meurt. Au revoir. C'est terminé. C'est ça, la vie. C'est pour ça que Dieu nous a mis sur la terre. Je pense que au fond de nous tous, on sait, non, il doit y avoir autre chose, ce n'est pas possible. On ne va pas mourir là comme une bête sans avoir rien accompli, en vivant juste pour son ventre, pour remplir son ventre. En France, hein, on aime bien vanter l'épicurisme, on dit « Ah, la bonne bouffe !» Et c'est vrai qu'on a une gastronomie extraordinaire dans chaque région. Hein. Et on aime bien les bons repas avec un bon vin et tout ça, c'est super, on se régale. Mais si c'est ça ma vie, ma fin, c'est quoi? La perdition. Pourtant, ce n'est pas un péché très grave en apparence. Hein. Vous n'êtes pas en train de tuer les gens ou de voler même. Mais quand on a pour Dieu son ventre, quand on ne cherche que les choses de la terre, on est en train de rater sa vie, de perdre sa vie, tout en croyant la conserver. C'est ça la chose. On pense qu'on garde sa vie, mais en fait, on est en train de la perdre pour l'éternité. Quand on cherche à se satisfaire soi-même, son ego, son individualisme. Nous sommes dans une société qui encourage, qui bénit l'individualisme. Moi, et moi, et rien que moi. Le selfie, pour moi, ça illustre très bien cette nouvelle mode. On en rigolait avec des amis parce que les gens se vont dans le monde entier. Alors, ils sont devant des paysages sublimes et puis tout ce qu'on voit, c'est leur tronche, hein, pour être mal poli. Mais c'est pas toi qu'on veut voir, pousse-toi, je veux voir le Grand Canyon derrière toi ou la merde. Et voilà les gens, c'est le selfie. C'est vraiment l'image d'aujourd'hui, l'individualisme, centré sur moi. Je suis, tout tourne autour de moi, je suis le soleil. Et le moi, l'individualisme n'est jamais satisfait, ne peut jamais être satisfait. On peut jamais trouver le sens à sa vie comme ça. Parce qu'on n'est jamais comblé. Le moi veut toujours plus être mis en avant. Et on le voit avec les programmes télé aussi, avec les gens qui essayent de devenir des stars, des inconnus qui deviennent des stars en faisant n'importe quoi à la télévision. Ça devient de pire en pire. On essaye tout, mais on n'est jamais satisfait. On se déçoit toujours soi-même finalement. Même si ce n'est pas seulement les autres qui nous déçoivent, c'est soi-même. On ne peut arriver à tout résoudre, on ne peut se rendre heureux soi-même. Vous pouvez essayer de tout contrôler dans votre vie, de dire à moi, j'ai mis toutes les murs, les barrières, j'ai tout calculé, je vais être heureux là, dans 5 ans, je suis heureux, ça y est. Qu'est-ce que vous en savez? J'aime bien raconter l'histoire de ce jeune homme guitariste dont le père l'avait endoctriné à devenir millionnaire à 30 ans, et il y est arrivé grâce à la guitare classique, il faisait des concerts, il vendait des disques. Il avait 1 million de dollars sur son compte à l'âge de 30 ans. Et il s'est dit, j'ai atteint le but à ma vie. Voilà. Sauf que quand il a fini tout ça, ben, il n'avait plus rien à faire. Il s'est ennuyé profondément. Il a acheté une belle maison. Il est allé à la pêche. Et au bout de plusieurs semaines de pêche, ben, il s'est ennuyé. Et puis là, c'était la mort. C'était le vide. J'aime bien ce que dit Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste. C'est vraiment un livre pour nous aujourd'hui. Parce que Salomon, qui s'appelle aussi l'Ecclésiaste, ça veut dire le prédicateur, hein, en hébreu, il a eu tout ce qu'on peut espérer dans la vie. Mais vraiment. En tant qu'homme, en plus. Il a eu toutes les femmes qu'il voulait. Et certains hommes, c'est ça leur rêve. Hein. Vous pouvez dire, toi, hop, il l'avait dans son lit. Il a eu tout l'argent, tout l'or. Il recevait des kilos d'or, des tonnes d'or chaque année, hein, pour son royaume. Et il l'utilisait comme bon lui semblait. Il avait un royaume puissant, il avait une armée puissante, il avait la paix. Dès qu'un ennemi arrivait, il pouvait le repousser. Il avait vraiment tout. Et voilà ce qu'il dit au chapitre 2 de son livre. Verset 8. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs, des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand. Plus grand que tous ceux qui avaient été avant moi à Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. C'est-à-dire, tout ce que je voulais, je le prenais. Fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît, accomplis tous tes désirs. C'est pas ça le mot d'ordre d'aujourd'hui? Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, et c'est là que tout se gâte. J'ai considéré toutes les œuvres que mes mains avaient faites et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Hein, c'est son expression, sous le soleil, pendant la vie terrestre. Il a tout fait, il a eu tout ce qu'il voulait, et quelle est sa conclusion? Je suis heureux, je suis épanoui, la vie est belle, c'est merveilleux. Tout est vanité. Vanité, ça veut dire tout est vide, tout est creux, tout est vain. Ça ne sert à rien. Ça ne me comble pas. Je ne vois pas l'intérêt. J'ai fait tout ça et qu'est-ce qui me reste? Quand j'étais incroyant, hein, quand j'étais athée, j'étais étudiant et des fois on faisait des bonnes sorties avec les copains, on buvait beaucoup d'alcool, on jouait aux cartes, on fumait comme des pompiers. Et je rentrais à 3-4 heures du matin. Ben, j'étais vide, j'étais vide. Le dimanche matin, je me levais à 11h midi, au plus tôt. Comment j'étais? J'étais doublement vide là. Alors là, j'étais mal. Hein. Le dimanche, c'était le jour de l'angoisse. Hein. Parce qu'il n'y a rien d'être là, seul. J'ai rien fait. Qu'est-ce que c'est ma vie? C'est zéro. Jésus a raconté la parabole de l'insensé, hein, qui avait amassé beaucoup de grains dans ses granges, hein, et il s'est dit, mon âme, réjouis-toi, tu as de quoi vivre, hein, pour des années sans travailler. Et Dieu lui a parlé dans la nuit, il a dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Tu vas mourir. Et tout ce que tu as amassé, c'est pourquoi ? Quel est le sens à ma vie ? Il y en a qui vivent aussi pour une idole. Alors, dans la Bible, les idoles, c'était souvent des statues, des divinités païennes. Il y avait Astarté, hein, il y avait Baal, etc. Mammon pour l'argent, etc. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui adorent des statues. Dans le bouddhisme, on vénère la statue de Bouddha. Dans le catholicisme, on vénère des statues, des saints, de la Vierge, de Jésus, de Pierre, etc. Et Dieu a dit dans les 10 commandements, c'est un des premiers commandements, il dit, vous ne ferez pas de statue, d'image taillée, et vous ne vous prosternerez pas devant elle. Ce n'est pas ça qui va donner un sens, ce n'est pas une statue qui va m'aider dans la vie. Mais il y a une autre façon d'avoir des idoles, ça peut être aussi son job. Ah, moi, ma passion, c'est mon job. Moi, c'est les voitures. Voilà, les voitures. Je construis ma voiture. Je tune, hein, on fait du tuning. Je fais du tuning de ma voiture dans mon garage. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie ? Oh, j'ai rajouté des ailes élargies à ma voiture. J'ai mis des pneus 16 pouces ou je ne sais pas quoi, 20 pouces. C'est ça que tu as fait dans la vie. C'est super ta vie. C'est merveilleux. D'autres, c'est l'argent, d'autres, c'est leur bateau, d'autres, c'est le foot, d'autres, c'est le rugby. On a chacun nos idoles. Et on est tous pareils. Hein? On est tentés, on a un cœur qui va vers les idoles. Mais Dieu a dit, si vous voulez avoir un sens à la vie, il va falloir se détourner de tout ça. Dans le prophète Ésaïe, hein, il dit, « Y a-t-il un autre Dieu que moi, dit l'Éternel ? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. » Ça, c'est le constat de Dieu, hein, ce n'est pas mon constat. Dieu dit, « Tout ça, ça ne sert à rien. Le vrai sens à la vie, c'est quoi ?» Quand on s'approche de Dieu à travers les Écritures, la Bible, avec la foi, quand on découvre Dieu à travers sa création aussi, hein, quand on voyait la création de Dieu, les œuvres magnifiques de la nature, on peut commencer à découvrir le sens à la vie. Si je suis là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et si Dieu a voulu que je sois là, c'est pas juste pour que je sois là, c'est parce qu'il veut une relation avec moi. Et quand on continue de chercher, on découvre que Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ sur la terre. Personne n'a jamais vu Dieu, dit la Bible, mais Dieu, le Fils unique, l'a révélé, l'a manifesté. Dieu est descendu lui-même en la personne de Jésus. Et à travers Jésus, on peut découvrir le sens à la vie. C'est qu'on a été créé pour un but, pour vivre avec Dieu pour l'éternité. Dans Éphésiens 1:12, par exemple, c'est un des versets qui parle du sens à la vie chrétienne. Il dit, « Afin que nous servions, nous les croyants, à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Dans notre vie, on peut célébrer la gloire de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a fait tellement de choses pour nous. Et le chrétien doit avoir une vie centrée sur Jésus-Christ. Parce que le chrétien est tenté lui aussi de revenir aux choses du monde, à avoir pour Dieu son ventre. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. » Il y a vraiment un choix à faire. Si je veux être chrétien honnête et authentique, un vrai disciple de Jésus-Christ, je dois dire, je ne vais pas poursuivre les choses du monde, je vais poursuivre les choses éternelles, spirituelles. Et éternel, ce n'est pas simplement être dans les nuages ou enfermé dans un monastère, hein, parce qu'on a beaucoup de fausses idées là-dessus. Ah, si tu veux dire qu'il faut rentrer dans un monastère et prier jusqu'à la fin de tes jours, non, ce n'est pas ça. c'est de vivre sa vie en travaillant, en ayant une famille, en ayant les choses, en utilisant les choses de ce monde, oui, mais que notre cœur, lui, soit attaché à Christ. L'apôtre Paul est vraiment un modèle, un exemple, hein. Il a écrit dans Galates, Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Est-ce qu'on peut dire ce matin, oui, Christ est ma vie? Ou alors, ma famille, c'est ma vie. Mon job, c'est ma vie. Mes vacances, c'est ma vie. Ou est-ce qu'on peut dire, Christ est ma vie? Ça veut dire que tout ce que je le fais parce que Christ est dans ma vie. Et je le fais en voulant glorifier, en voulant mettre en valeur Jésus-Christ. Quelle valeur j'ai moi-même? Zéro. Tout ce que j'ai, moi, c'est plutôt une tendance à aller vers le péché, vers la désobéissance, la rébellion, à détruire les bonnes choses. Ça, c'est la nature humaine. Elle a plein d'idéaux, plein de rêves, plein de belles idées, mais elle a tendance à tout casser. Mais quand Christ vient dans notre vie, il nous permet de construire pour l'éternité, de faire du bien, d'avoir le vrai amour, la vraie joie, le vrai bonheur, on parle du bonheur, la vraie paix, une paix durable. Et pas une paix basée sur l'instant, mais une paix profonde. Tout ça nous est donné par Christ. L'apôtre Paul, avant d'être apôtre de Christ, il était un ennemi des chrétiens. Il s'appelait Saul de Tarse, puisqu'il était né à Tarse. Et il poursuivait les chrétiens de sa haine, il voulait les arrêter, les faire exécuter, parce qu'il considérait que c'était une secte juive malfaisante. Et il considérait que Jésus était un démoniaque ou un diable incarné hein, qui détournait les gens de la vérité. Et c'était un bon pharisien, un bon rabbin, un homme qui avait vraiment un pédigré extraordinaire, un curriculum vitae de 3 pages de long. Hein, élève de Gamaliel, pharisien, juif, né de juif, et en même temps citoyen romain. Il parlait plusieurs langues, il écrivait, il était dans le Sanhédrin, le gouvernement juif. Bon, c'était un homme éminent, n'est-ce pas? Un intellectuel, un homme politique, un rabbin, tout en même temps, il avait toutes les qualités. Et quand il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin vers Damas, hein, et que Christ lui a dit, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Et là, il est tombé de cheval et il a compris qu'il faisait fausse route. Que sa gloire humaine, que sa haine était totalement à côté de la plaque. Il se trompait complètement de combat. Il est devenu chrétien. Et là, le grand Saul, parce que Saul, ça veut dire élevé en hébreu, hein, Shaoul. Le grand Saul est devenu un homme humble et il a changé de nom pour s'appeler Paul, Paulus en latin, petit. Et qu'est-ce qu'il a écrit aux Philippiens? Il a dit, toutes ces choses-là, tout mon pédigré, je le regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Je le regarde comme de la boue. Quand même, on peut dire, mais attends, Paul, tu vas pas renier tes diplômes, tes études, ta naissance, tu es d'une grande famille, de Benjamin, la tribu de Benjamin. Il dit, tout ça, pour moi, ça ne vaut rien. Comparé. En fait, c'est ça qu'il voulait dire, hein. Comparé au fait de connaître Christ. Et j'ai peur que parfois nous passions à côté de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. On mène la vie chrétienne devient un hobby de plus, quoi. Le samedi, je vais au golf et le dimanche, je vais à l'église. Voilà, c'est un truc dans ma vie, ça m'aide beaucoup, ça me donne beaucoup de paix, je suis bien dans ma peau. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je peux dire vraiment Christ est ma vie? C'est sérieux. C'est que même après la mort, Christ sera toujours ma vie pour l'éternité. Et je veux suivre le Seigneur. Il est premier dans mon existence. Alors, quand j'entendais des messages comme ça du pasteur Somerville, j'étais un jeune chrétien, tout nouveau dans la foi. Je disais, oh, le pasteur, il va trop fort. Il exige trop. Non, Christ est ma vie. Non, il faut être équilibré. Il faut un peu de monde, un peu dans le monde, un peu. Et j'arrivais pas à saisir qu'on peut vivre dans ce monde, travailler, avoir sa carrière, sa vie, mais avoir Christ comme sa vie. C'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est par rapport au Seigneur. Je demande la volonté de Dieu, je cherche la volonté, je cherche à être un témoin de Christ, une lumière partout où je suis. Et si je devais tout perdre, ça me serait égal. Ce qui compte, c'est d'avoir Christ et de le connaître. Parce que Christ est une personne extraordinaire. Bien sûr, on rappelle qu'il est mort pour nous, mais ce n'est pas seulement ça. Il est parfait. Il est la compassion, l'amour incarné. Il est le vrai cépin, le vrai fruit. Il est le bon berger. Est-ce que Christ est votre berger? Votre ami fidèle et tendre, comme dit le cantique? Ou est-ce que c'est simplement un personnage théologique? Est-ce que j'ai une relation personnelle avec Jésus-Christ ressuscité? Quand on lit un peu le Nouveau Testament, on voit cette relation qu'avaient les apôtres. Même après que Christ soit monté au ciel, ils avaient toujours ce lien par le Saint-Esprit, par la foi. Quel est le sens à ma vie? Si je suis chrétien, je dois pouvoir dire le sens à ma vie, c'est de vivre pour Christ. Il m'a racheté, il a donné sa vie pour moi, alors que j'étais perdu, j'étais une brebis perdue et il est venu me chercher par amour, par grâce. Il aurait pu me laisser tomber et maintenant je suis à lui et il est à moi. Et puis, si on n'est pas chrétien, qu'est-ce que vous répondriez? Quel est le sens à votre vie? Peut-être que vous dites, moi j'aimerais avoir un sens véritable. J'en ai assez de vivre dans la vanité, dans le vide. Je cherche quelque chose qui comble la vie, mais je n'arrive pas à trouver quelque chose qui satisfait. Eh bien, cessez de chercher à droite, à gauche. En Dieu, vous trouverez le sens à votre vie. Parce que Dieu est votre Créateur. Il veut être votre Père, votre Seigneur. Mais il faut se tourner vers lui. Il faut le recevoir dans sa vie. Il faut accepter aussi qu'il règne dans notre vie. Et c'est là toujours où ça bloque. On dit, moi, je veux être libre. Je ne veux pas que quelqu'un me dise ce que j'ai à faire. C'est vrai que ce n'est pas amusant d'avoir quelqu'un qui vous dit toujours ce que vous avez à faire. Surtout si vous êtes un adulte. Déjà, quand on est enfant, on n'aime pas trop. Mais quand on est adulte, on veut pouvoir être indépendant. Mais si c'est Dieu qui le dit, ce n'est pas pareil. Parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu, il a toute la sagesse. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Combien de fois j'ai voulu faire les choses à ma façon et c'était un échec. Et puis après, quand j'ai commencé à dire, bon Seigneur, vas-y, montre-moi comment il faut faire, c'était une réussite. Parce que Dieu sait mieux que nous. On ne renonce pas à tout, je veux dire, à son libre arbitre. On a toujours le choix quand on est chrétien. Mais quelque part, on est prêt à perdre sa vie telle qu'on la concevait avant, vie pour soi-même, vie pour l'argent, vie pour le vide, pour gagner une nouvelle vie, une vie abondante, une vie spirituelle, une vie où il y a l'amour, la joie, la paix, la pureté, où aussi on peut être utile aux autres, tourner vers les autres et non pas vers soi-même. Et que le Seigneur nous donne en ce début d'automne de ne pas nous laisser avoir par les appels du monde, par cette routine. On rentre dans la routine à nouveau. On est dans le rythme. Surtout à Paris, c'est tellement facile en région parisienne, hein. Le train, l'école, le travail, tellement de trucs qui nous accaparent. Et on est obligé de faire ça. On est responsable. Si on est parent, par exemple, il faut bien amener ses enfants à l'école. On va pas dire, ben, débrouille-toi, on va compter sur Dieu. Mais en faisant cela, on peut dire, Seigneur, comment je peux amener mes enfants d'une façon qui te glorifie? Comment je peux leur transmettre quelque chose pendant le voyage? Comment je peux chanter un cantique avec eux pendant qu'on est en voiture? Comment je peux leur apprendre, les aider, les consoler s'ils ont des problèmes à l'école? Tout ça peut être fait autrement, centré sur Dieu et non pas juste pris dans la routine de la vie. Que le Seigneur nous aide à appliquer sa parole et à pouvoir dire nous aussi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain.